Alors, je vais vous parler de tauromachie. L'autre jour, je m'ai trouvée à Naples, un colloque qui portait sur la noblesse espagnole à Naples, et où je parlais de cette noblesse espagnole que je connais un peu. Et quelqu'un, un historien espagnol, m'a dit « Sur quoi d'autre travailles-tu ?» J'ai dit « Je travaille occasionnellement, mais j'ai travaillé de plus en plus sur la tauromachie, parce que partout dans les archives, je trouve tout le temps des choses sur la tauromachie. » Ah, il m'a dit « Ah, mais moi, je ne vais pas voir des courses de taureaux. » Je lui ai dit « Mais tu sais, je suis sûr que si demain, il y avait un auto d'affé, tu n'irais pas non plus, moi non plus. Ça ne nous empêche pas de travailler sur l'Inquisition. » Bon, donc pour dire que d'abord, la tauromachie, indépendamment du fait que je ne cacherai pas, j'ai un goût pour la chose, mais j'essaye d'écarter les deux, de séparer les deux, et véritablement, c'est en tant qu'historienne, parce que je considère qu'il n'y a pas de domaine interdit pour un historien, qu'il est évident aussi que la tauromachie est toujours un sujet d'actualité, une controverse sociale aujourd'hui plus forte que jamais, puisqu'elle est terriblement contestée, qu'elle a une histoire, et que cette histoire est profondément liée à toute l'histoire sociale de l'Espagne et des pays d'Amérique, et même aujourd'hui du sud de la France, qui s'identifie, pour une partie, certains, ou tout au moins, un certain nombre de gens, s'identifient avec cette chose, mais qui, en tout état de cause, a une histoire, et donc un objet historique comme un autre. D'autant plus que c'est un objet historique de très longue date, puisque la tauromachie, pour utiliser ce mot qui est facile, mais enfin, on devrait avoir parlé des jeux, des pratiques, des fêtes tauromachiques, il faudrait à chaque fois faire vraiment une longue digression pour dire cela. Hein, mais la tauromachie, pour simplifier, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans l'histoire et dans l'avant-histoire et peut-être même dans la préhistoire des sociétés méditerranéennes, mais ça se perd dans le temps, et que plus récemment, pour des périodes historiques qui sont les miennes, nous avons énormément de documents, et nous voyons passer quelquefois des choses qui paraissent vraiment superficielles, et puis finalement on se rend compte que ça a une incidence sur la vie quotidienne, sur le divertissement, sur le regard que les Espagnols portaient sur le monde, sur l'évolution sociale, sur beaucoup de choses. Alors je ne prétends pas vous parler de tout cela aujourd'hui, je vais juste essayer de mettre en relation donc la noblesse, et particulièrement la noblesse militaire, guerrière presque je dirais, avec la pratique de la tauromachie pour la période moderne. Alors j'avais fait quelque chose qui n'était pas loin de cela à Séville il n'y a pas longtemps, et j'avais donné comme sous-titre, là même si j'ai mis guerre et paix là-bas, j'avais donné comme sous-titre qui correspond toujours et qui convient toujours, mais je l'ai déjà donné, c'est pour ça que je ne voulais pas redonner à vous, mais je ne résiste pas, hein, le chevalier, le taureau et le prince, parce qu'il est vraiment question de cela. Alors en 1567, le pape Pie V publie la bulle De Salute Gregis, le salut des brebis, destinée à interdire en tout lieu, je cite, les chasses de taureaux ou courses de taureaux. La bulle dit les deux en alternance. Cette bulle fut officiellement communiquée aux évêques espagnols par le nonce Castagna le 23 janvier 1568, quelques mois plus tard. Des discussions nombreuses entre théologiens dans un sens ou dans un autre, en faveur ou contre les spectacles taurins, eurent lieu au cours des mois suivants. Philippe II ne réagit pas tout de suite, tout au moins nous n'avons pas une trace de réaction immédiate. Ce n'est que le 23 juillet 1570, c'est-à-dire 33 mois après la première publication romaine de la bulle sur le Campo di Fiori à Rome, qu'il écrit à son ambassadeur à Rome en lui demandant d'intervenir auprès du Saint-Père pour faire évoquer la bulle en question. Il n'obtient pas gain de cause, je ne vais pas vous raconter, ça serait une autre conférence, toutes ces querelles qui durent longtemps, et il poursuit ses efforts après la mort de Pie V, qui meurt 2 ans plus tard, en 1572, auprès de son successeur, Grégoire XIII, qui va transiger un petit peu, qui va se laisser partiellement convaincre, et qui va transiger en allégeant certains aspects de la prohibition générale. Il fait quelques aménagements. L'interdiction n'est pas absolue et totale. L'interdiction ne portait pas que sur l'Espagne, elle portait sur tous les pays, mais hormis l'Espagne et quelques régions d'Italie, il n'y avait pas de pratiques tauromachiques ailleurs. Donc, de toute façon, les Espagnols se sont sentis vraiment concernés. C'est finalement Clément VIII, élu pape en 1592, c'est-à-dire déjà vers la fin du règne de Philippe II, qui par la bulle sous Septimum Edis révoque les interdictions précédentes, y compris pour les clergés séculiers, qui désormais pourra assister, non pas participer, mais assister à des spectacles tauromachiques, et ne maintient l'interdiction que pour les clercs appartenant à des ordres réguliers. Cela seront toujours interdits hein, dans les lieux où se pratique la tauromachie. Par ailleurs, les spectacles, à proprement parler, restent interdits le dimanche et les jours fériés, car ces spectacles prenaient une bonne partie de la journée, et cela voulait dire, en quelque sorte, que toute autre activité, y compris évidemment la messe ou autre pratique religieuse, était exclue à partir du moment où les gens se précipitaient pour aller voir cette course de taureaux, s'oubliaient le reste. Donc on l'interdit les dimanches et les jours fériés. Plus tard, ça donnera aussi un argument aux antitaurins qui diront, voilà, ça va provoquer encore des journées sans travail puisqu'ils vont aller voir des courses de taureaux le lundi ou le mardi. Donc ça sera finalement un argument qui se retournera contre la corrida. Ce qui nous intéresse davantage ici, c'est que parmi les arguments avancés par Philippe II et ses ambassadeurs, dont au départ dont Juan de Zúñiga, après ses successeurs, auprès des trois papes successifs, il y a eu d'abord celui bien connu, je cite, « Les courses de taureaux, et j'ai traduit, sont dans le sang des Espagnols, au point de ne pas pouvoir s'en passer sans se faire grande violence. » Alexandra Merle, lors de ce fameux colloque, avait consacré un article, et je l'ai dit sans aucune forme de... Vraiment, je l'ai relu hier soir avec grand plaisir, même avec... J'ai découvert des choses que j'avais oubliées. Elle-même, si elle le lisait aujourd'hui, elle trouverait des choses. Il faut que tu le relises. Hein, et elle avait vraiment consacré un article tout à fait mémorable, parce qu'elle ne connaissait pas la question au départ. Et c'est d'autant plus vraiment digne de... D'autant plus remarquable qu'elle avait consacré un article très intéressant à ce prétendu trait identitaire des Espagnols, c'est-à-dire son article s'intitulait « Tauromachie et identité nationale dans les mentalités espagnoles et étrangères à l'époque moderne ». Elle allait de la fin du XVe siècle jusqu'au XVIIIe. Elle arrivait à des conclusions que je ne retiendrai pas ici, mais qui sont fort intéressantes et que je n'ai pas lues ailleurs et que j'avais oubliées, que je me les suis rappelées hier et que je trouvais très intéressantes. Qui disent en gros comment à la fin du XVe siècle le goût de la tauromachie associé à ce goût du sang des Espagnols ne paraît pas un trait identitaire des Espagnols, mais que ça le paraît tout à fait au XVIIIe, aussi bien pour les défenseurs de la tauromachie que pour les détracteurs. Bon, ça serait un débat très intéressant que, à mon avis, mérite de se faire au vu de ce qui se passe aujourd'hui, mais qui n'est pas notre débat d'aujourd'hui. Outre cet argument et d'autres qui insistent sur la coutume très ancienne et sur la tradition très ancrée dans le peuple espagnol, le roi Philippe fait allusion plusieurs fois à l'utilité, la utilidad, de ces courses de taureaux, sans toutefois expliquer le propos. Ce sont souvent des documents qu'on n'a pas en entier, donc il manque des parties, etc. La utilidad, por la utilidad. Ce n'est qu'à travers la réponse de Clément VIII, dans son propre texte, que nous comprenons quel est le caractère utile de la tauromachie et que ce caractère utile se réfère à la guerre. Au bienfait de la participation aux fêtes des taureaux, que la participation aux fêtes des taureaux peut procurer aux militaires qui s'y entraînent, aussi bien au maniement des armes que de la monture, qui se familiarisent avec le danger et qui se font plus aptes pour la guerre ensuite. Donc cette idée de la tauromachie comme un exercice préparatoire pour la guerre est clairement exposée par Philippe II et d'ailleurs dans sa réplique Clément VIII l'utilise comme argument pour lever l'interdiction qui pèse sur ce spectacle. D'ailleurs, puisque bien sûr Philippe II est chargé de défendre le catholicisme en Europe, il faut que ces armées soient à la hauteur, n'est-ce pas? D'ailleurs, les membres des ordres militaires avaient déjà été autorisés précédemment par Grégoire XIII à intervenir dans les spectacles. Dès la première, dès la première levée de l'interdiction par le pape intermédiaire, les membres des ordres militaires, nommément, avaient été autorisés et à pratiquer la tauromachie et à intervenir et à assister comme spectateurs à ces spectacles dans les différentes arènes et lieux où ils pouvaient avoir lieu. Lors de ces échanges entre Madrid et Rome, tout au long des trois pontificats, les face-à-face entre l'homme et le taureau, particulièrement entre l'homme à cheval et le taureau, est comparé aux joutes et aux tournois d'une part, au duel interdit par le Concile de Trente d'autre part. les lois qui servent pour l'un doivent servir pour l'autre, et en ce qui concerne le duel, s'il est complètement interdit, on doit complètement interdire, évidemment, ces duels entre l'homme et un taureau. Hein. En revanche, si on utilise les joutes parce qu'elles sont, elles aident à pratiquer l'exercice de la guerre, on doit aussi permettre la tauromachie. Alors, il est certain que l'interdiction des piscins est portée sur diverses formes tauromachiques, à pied ou à cheval. Mais ici, aujourd'hui, et parce qu'il s'agit des nobles militaires, donc des militaires, je ne veux m'attarder que sur la tauromachie à cheval. Tout en faisant une petite digression, une petite parenthèse, vous vous rappelez que la tauromachie à pied est la première, la primitive, la plus importante, celle qui existe depuis qu'un homme et un taureau se sont trouvés en race campagne ou quelque part, par un instant de défense, par un instant de jeu, par un instant dû à des pratiques magiques, à des croyances anciennes, selon lesquelles le taureau est le reproducteur du troupeau et peut passer son pouvoir génétique reproducteur vers le jeune homme qui ose le défier ou le jeune homme qui le touche par une sorte de rite de contact dont a très bien parlé Ángel Álvarez de Miranda dans un livre mémorable publié en 62 qui était Ritos y Juegos del Toro. C'était un historien de religion, pas du tout aficionado, qui avait fait un livre remarquable et qui reste toujours un livre remarquable sur la question. Ici, je ne vais pas parler de ces pratiques populaires, diverses, variées, dans toute la géographie, y compris dans le sud de la France, comme en Camargue, comme dans les Landes ou ailleurs. Je ne vais parler que de la tauromachie à cheval, parce que c'est celle qui peut avoir une relation avec la milice. Alors, c'est évident que l'argument utilitaire par rapport à la guerre ne concerne ici que le noble à cheval, qui, avec ses armes, fait des saluts avec les taureaux en exercice militaire, nous l'avons dit. Mais est-ce que cette relation entre le noble à cheval et la tauromachie a toujours existé? Est-ce qu'elle va de soi? Est-ce que la noblesse a toujours pratiqué la tauromachie à cheval en pensant que c'était quelque chose qui avait une relation directe avec la guerre? Ou pas? Est-ce qu'elle a continué de le faire après l'époque de Philippe II? Alors, je vous propose donc une présentation en trois parties, mais je vous dis tout de suite que déjà les deux premières sont un peu plus longues que la troisième, parce que sinon je n'arriverai jamais au bout de mon affaire. C'est que je suis intarissable en général et en particulier sur ces sujets. Donc bon. Alors, une première partie va passer en revue ce que nous avons des jeux et des spectacles taurins au cours du Moyen-Âge, jusqu'au roi catholique, et je dirais la tauromachie, une pratique populaire. Dans une deuxième partie, je vais vous parler de Charles Quint, qui va être finalement l'objet central de ma communication, de Charles Quint ou le premier tournant. Le premier tournant, la tauromachie, la pratique du toréo, comme là, c'est l'exercice du guerrier. L'exercice du guerrier. Et dans une troisième partie, sur laquelle je passerai très rapidement, parce qu'elle véritablement mérite une longue conférence à elle toute seule, que je n'ai pas le temps d'aborder ici, ça serait Philippe III, ou le deuxième tournant, c'est-à-dire la tauromachie en art des cours. Alors, allons-y vers le Moyen-Âge. Je vais essayer de ne pas m'égarer et d'aller vraiment al grano, comme on dit en espagnol. Alors, je vous ai déjà dit un mot sur la tradition taurine populaire qui se remonte à des temps très anciens. Toutes ces pratiques n'ont pas seulement une tradition cynégétique, la chasse à laquelle on a beaucoup pensé, mais comme je vous l'ai dit, probablement, d'après Ángel Álvarez de Miranda, qui me semble le plus fiable de tous ceux qui ont étudié la question de très près, c'est sûrement des pratiques magiques, des rites transformés en mythes, qui expliquent cette espèce d'engouement pour... Il fallait évidemment qu'il y ait une race autochtone d'animaux capables, susceptibles d'attaquer, car la différence entre un taureau et un lion, par exemple... C'est qu'un taureau, quand on le défie et c'est inscrit en quelque sorte dans ses gènes, le taureau attaque, le taureau ne se retourne pas, et si on le blesse, il continue d'attaquer, il ne va pas partir. C'est-à-dire il y a une espèce de surenchère dans l'attaque. C'est cette capacité de charger, d'attaquer, qui fait finalement, qui donne au taureau toute sa dimension en même temps ludique, toutes ses potentialités spectaculaires que d'autres animaux, avec un lion, on le tue pas, puis l'un vainque l'autre. Mais il n'y a pas des jeux possibles, il n'y a pas des face-à-face qui puissent durer. C'est tous une mise à mort. Avec le taureau, les choses sont un peu plus compliquées. Or, cette race existait, et c'est cela qui a permis à l'homme ibérique de se mesurer à cet animal. Bien. Et la mise à mort du taureau dans les pratiques les plus anciennes apparaît vite comme le point d'aboutissement de la rencontre, mais ce n'est pas absolument obligatoire. Il y a eu, et il y a encore aujourd'hui, dans toutes les tauromachies non sanglantes, comme dans les jeux navarrais ou dans les tauromachies du sud de la France à l'ancienne, camarguaise, rasteur, etc., il y a des pratiques non sanglantes où le but est de se mesurer au taureau sans en arriver à la mise à mort. Les deux ont toujours cohabité, il y a eu les deux types de pratiques, y compris au Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, les Partidas Alphonse X sont le premier texte légal qui prend position sur la question des jeux tauromachiques. La Partida première, titre 5, loi 57, établit que les clercs ne peuvent jouer ni aux différents jeux de hasard, ni intervenir dans des combats de taureaux, lidiar toros, ou d'autres animaux sauvages, ni assister à ces combats. Les Partidas sont très claires là-dessus. L'interdiction faite aux clercs remonte très loin dans l'histoire. Plus généralement, la Partida troisième, titre 6, loi 4, déclare l'indignité de celui qui combat des animaux sauvages contre de l'argent. Donc, cela met au XIIIe siècle déjà, n'est-ce pas, une condition, lidiar un toro, c'est-à-dire combattre un taureau contre de l'argent, c'est véritablement se livrer à une pratique pas tellement illégale, mais surtout à une pratique indigne. L'homme perd son honneur. Donc, il est exclu qu'un noble puisse le faire contre de l'argent. Ça serait à la limite réservé aux vulgaires. D'ailleurs, nous allons trouver au cours des XIIIe, XIVe et XVe siècles plus souvent l'expression « courir des taureaux », qui veut dire pratiquer des choses diverses avec les taureaux qui ne sont jamais définies, on reste toujours sur sa fin, que lidiar, combattre et mettre à mort. Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'exemples, des documents qui nous montrent des jeunes nobles mettant à mort des taureaux pour le XIIIe et XIVe siècle, ni musulmans, ni chrétiens. Bon, la thèse musulmane, je la laisse de côté, nous n'avons rien hérité des musulmans de ce côté-là, nous n'avons aucun document historique qui puisse prouver, à part l'imagination de quelques romanciers français, des scudéries et d'autres, pour s'inventer des taureaux partout, nous n'avons aucune preuve que les musulmans aient jamais tauréé ou joué avec des taureaux, on n'en sait rien, peut-être oui, peut-être pas, mais on n'en sait rien. Bien, alors, la chronique qui a fait remarquer particulièrement les pratiques équestres de la noblesse tardo-médiévale, pratiquement à l'aube de la Renaissance, est celle du connétable Lucas de Hidanzo. Los hechos del condestable Don Miguel Lucas de Hidanzo, publié par Juan de Mata Carriazo, en édition facsimilée à Grenade en 2009, est une chronique tout à fait intéressante, remarquable à bien des égards. Je l'ai lu plusieurs fois, toujours sous l'angle de la tauromachie, en essayant de la lire avec mon regard de quelqu'un qui connaît la question, parce qu'il y a eu des lectures complètement erronées sur cette chronique, par des gens qui ne connaissaient pas la tauromachie, ont fait une mauvaise lecture de cette chronique. Je le dis très sincèrement. Alors, cette chronique remarquable et très festive nous fait un récit minutieux de la vie de ce seigneur andalou entre le 25 mars 1458, le jour même où il devient comte et connétable et qu'il quitte la cour d'Enrique IV et la privanza d'Enrique IV, et qu'il se retire dans sa ville de Jaén, où il restera jusqu'à sa mort. Il y vit en alternant ses obligations administratives et ses charges dans la défense de la frontière, on est à la frontière du royaume de Grenade, et avec un nombre incalculable de fêtes et de divertissements au milieu de tout ça. Alors, la chronique nous permet de voir au quotidien une riche cour sur un territoire très marqué, un territoire des frontières, tout à fait la frontera, et ce seigneur qui partage, lui et sa suite, partage leur vie entre les châteaux de Jaén et de Bailén et fête des événements, des fêtes courantes, puis des événements exceptionnels, importantes, festifs, tout le temps, à la suite, les années, les unes des autres, et dont on peut remarquer trois au moins, le mariage du connétable en 1561, la visite du roi en 1464, j'ai dit 1500, mais j'ai fait une erreur de frappe, en 1461, la visite du roi Henri IV en 1464 et la naissance de sa fille aînée, une fille, Doña Luisa, en 1465. Je ne retiens pas les autres, je ne vais pas trop m'attarder. Dans les trois occasions, la cour du connétable redouble d'efforts pour célébrer sans compter. Les jeux des cannes et les jeux des bagues, qui font partie de toute cette pratique équestre de la noblesse, sont au centre des exercices pratiqués par les jeunes gens dès l'entourage du seigneur. Il est également souvent question de courir des taureaux, mais à aucun moment nous n'avons la certitude que ce sont les nobles qui s'y emploient, je dirais même plutôt le contraire. Il n'y a pas de doute que les jeux de cannes et le jeu de bagues sont menés par des jeunes gens à cheval. C'est clair, parce que c'est dit. Hein, on donne les noms, et c'est quand on ne donne pas le nom, on dit combien ils sont, et si le cheval a été blessé, si le cheval, etc., s'est cassé une patte, ou je ne sais quoi. Mais à propos des taureaux, on est dit tout simplement, le connétable a ordonné de courir 4 taureaux, le connétable a ordonné de faire courir 6 taureaux. On ne nous dit pas plus que ça. Alors, par exemple, lors des fêtes nuptiales, des taureaux sont courus à plusieurs occasions sans que rien ne soit précisé sur le déroulement de la fête, à une exception près. Un samedi matin, pendant le cycle festif de plusieurs journées autour de ces fêtes nuptiales, je cite, « Après avoir mangé, dansé et chanté, dans l'après-midi, le connétable part à cheval et tous les autres avec lui, j'ai traduit textuellement, jusqu'à la place des Saint-Jean. La place des Saint-Jean, c'est la place de la Raval. C'est la place qui est hors les murs, la place qui est à l'extérieur de la ville. Il y a un contraste entre la Plaza Mayor, Plaza de Santa Maria, devant la collégiale ou la cathédrale, et la Plaza de San Juan, d'ailleurs le solstice d'été, la Saint-Jean, fête agraire, etc., etc., qui est à l'orée de la ville. Et il va jusqu'à la place de Saint-Jean avec sa suite, où il ordonne de courir 5 ou 6 taureaux. Je continue la citation. « Et comme l'un d'eux avait attrapé un homme dans ses cornes, sous le balcon Mirador, hein, où il s'est trouvé, avec grand à-propos et promptitude, le connétable lui porta secours en jetant sur les cornes du taureau un coussin de brocart qu'il avait sous les coudes, et les taureaux, pour attraper le coussin, lâcha l'homme qui ainsi put avoir la vie sauve. » C'est-à-dire que nous voyons bien que le connétable est un spectateur qui est à un balcon, à un mirador plus exactement, avec ses coussins et qui observe des gens qui font courir des taureaux, dont nous verrons très bien que ce sont des hommes à pied. Ces descriptions et d'autres prouvent pour les lecteurs avertis que si bien les cannes ou la bague font partie des exercices que le noble chevalier pratique pour se divertir et amuser ses dames, s'exercer à cheval, mettre à l'épreuve leur dextérité, l'affrontement du taureau ne fait pas partie de la panoplie. Les 16 hommes à cheval ne vont pas, en aucun moment, ne vont se combattre des taureaux. Ça sera toujours, dans le cadre de la cour du connétable, des hommes à pied. À une autre occasion, lors des fêtes de 1464, une différence très nette est marquée entre la place principale, Santa Maria, où tiennent lieu les jeux des cannes, et celle de la Raval ou de Saint-Jean, à l'orée de la ville, où toute la cour se déplace pour assister en hauteur, toujours des balcons, des miradors, des promontoires, à la course des taureaux. Là, ils deviennent spectateurs. D'ailleurs, en dehors des cycles festifs occasionnels, le connétable oblige ses chevaliers à s'entraîner à la guerre en temps de paix, et à ce titre, il ordonne que, je cite, « Tous les chevaliers de la dite ville, chaque dimanche et jour des fêtes, jouent des cannes pour acquérir de l'adresse et apprendre à bien combattre. » Ailleurs, il est dit que, dans les tournois et les cannes, les gens de la maison du connétable passaient leur temps, car ils n'avaient pas de fait de guerre pour s'occuper, les trêves avec les morts étant toujours en vigueur. Donc, à aucun moment, on ne nous parle ici des courses de taureaux, autrement que ces courses de taureaux spectaculaires qui se passent ailleurs et dont ils ne sont pas les acteurs, dont ils ne sont que les spectateurs. Bien. Donc, finalement, la chronique aristocratique la plus notable du XVe siècle ne nous montre pas des nobles toréant à cheval. C'est la conclusion que je tire. Pour ce qui est du règne des rois catholiques, les chroniques sont très peu explicites. Elles nous disent souvent « se corrieron toros », on a couru des taureaux. Elles ne nous disent jamais ni combien, ni qui, ni comment, ni de quelle façon. « Hubo accidentes », on ne sait pas qui sont. Quand c'est un noble qui est blessé, nous avons toujours le nom du noble. Là, c'est toujours totalement anonyme. Ni explication ni description. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le nord de l'Espagne semble avoir introduit, plutôt que le sud, avant nous parlions de Jaén, dans ces villes et à la cour, le taureau à cheval. Car nous avons par exemple à Santo Domingo de Silos, hein, à côté de Burgos, dans le plafond à caissons, nous voyons des scènes des hommes au milieu du XVe siècle où il y a des hommes à pied face à des taureaux et des hommes à cheval. Et dans plusieurs cathédrales du Nord, à Palencia, à León, etc., nous avons des scènes des chevaliers face à des taureaux pour ce même XVe siècle. Il faut penser que les évolutions tauromachiques ne sont jamais les mêmes dans toute la péninsule. Il y a des moments où, dans le déroulement de l'histoire de la tauromachie, il y a des régions qui prennent le devant, puis ensuite un bouleversement, et d'autres régions qui prennent le devant à un moment où certaines stagnent. C'est une pratique qui est vraiment toujours en devenir, et ces évolutions ne se font pas au même rythme, elles se font aussi en fonction du taureau. Dans la région de Zamora de León, il y a des taureaux très durs, très forts, qui supportent très bien les coups des lances et qui se prêtent particulièrement à cette espèce de tournoi ou de combat singulier avec un homme. En 1497, quand Marguerite d'Autriche arrive des Pays-Bas pour épouser le prince Jean, elle semble avoir été reçue à Burgos par une course de taureaux à laquelle auraient participé des nobles espagnols à cheval. Néanmoins, la tauromachie des 14e et 16e siècles, et c'est la conclusion de ma première partie, est quand même là, très largement une tauromachie populaire, assez désordonnée, et ce n'est que ponctuellement dans certaines régions, à partir du 15e siècle, que nous voyons, et plutôt les régions du Nord, ces régions qui ont été les premières dans la Reconquête, cette région de la très vieille noblesse espagnole, hein, les régions de Valladolid, de Palencia, de Zamora, de León, d'où nous vous voyons Burgos émerger une noblesse, qui est cette vieille, vieille, vieille noblesse, dont je citerai les noms tout à l'heure, qui semble avoir été la première à, et pas l'Andalousie, et aussi loin que possible du monde musulman. C'est vraiment assez extraordinaire. Bon, alors, deuxième partie, Charles Quint, un tournant, l'exercice guerrier. Quand le jeune Charles de Gand, après un voyage accidenté, que l'on sait, débarque en septembre 1517 sur la côte des Asturies et continue son chemin par voie terrestre jusqu'à la région de Santander, et que fatigué et malade, il s'arrête quelques jours à San Vicente de la Barquera, le chroniqueur officiel, Laurent Vital, raconte comment des jeunes du village offrent au jeune roi un spectacle taurin très rustique. Ils attrapent le taureau par les cornes, le font tomber et finalement le tuent à coups de couteau. C'est vraiment la rusticité même. En arrivant à Valladolid, siège de la cour, le cadre change. Les fêtes aristocratiques en l'honneur du jeune roi présentent des spectacles assez nouveaux. Pedro Cátedra, dans une série d'articles consacrés au tournoi en Castille, en particulier dans le catalogue de l'exposition de Los Reales Alcázares de Séville en 2000, La fiesta en l'Europa de Carlos V, s'attarde sur cette question des tournois. Pedro Cátedra rappelle que le tournoi avait été en Castille comme en Aragon, du XIIIe au XVe siècle, je cite, « l'expression nécessaire pour l'affirmation publique du pouvoir de la noblesse ». Cependant, il lui semble qu'à l'arrivée de Charles, cet usage était en quelque sorte affaibli, fossilisé, dit-il même, et que lui et les chevaliers bourguignons de sa suite l'ont en quelque sorte revitalisé. Les nobles espagnols n'étaient plus, s'attachaient beaucoup aux cannes, ils n'étaient plus très attachés aux tournois comme on les pratiquait dans le nord de l'Europe. Car son usage aux Pays-Bas, évidemment, était encore très répandu, très important, par son étroite relation, en particulier avec l'ordre de la Toison. Pour ma part, j'ajouterais que depuis la mort d'Isabelle la Catholique, les usages chevaleresques se sont perdus en Castille aussi, par tout simplement une absence des cours. Le vide non seulement des pouvoirs, mais les vides de cours qui s'est produit en quelque sorte depuis la mort d'Isabelle la Catholique, avec tout simplement l'intermède de 1506, le court passage de cette arrivée de Jeanne et de Philippe l'Hermoso, Philippe le Beau, crée pendant quelques mois une cour, mais cette cour est totalement éphémère puisqu'il meurt et que tout s'arrête. Et tout simplement, en Castille, encore Ferdinand à une sorte de cours en Aragon ou en Naples, mais en Castille, il n'y a pas de cours à proprement parler. Ce n'est pas Cisneros qui entretient une cour. Or, toute cette pratique de la noblesse, etc., est profondément liée à la relation avec le roi, donc à une vie des cours, n'est-ce pas ? Pour preuve, pour la Saint-Jacques à Tolède, dans ces mêmes années, 400 chevaliers de l'ordre de Saint-Jacques, réunis pour fêter leur patron, Saint-Jacques, Matamor, le plus féroce de tous les militaires, ne font pas des tournois, mais cours des cannes en montant à cheval à la Genette. C'est-à-dire que, véritablement, on est dans une pratique d'exercice équestre plus soft que le tournoi. Le tournoi appartiendrait, selon Pedro Cátedra, à une catégorie supérieure à celle des cannes, à une catégorie plus guerrière, effectivement, plus agressive que celle des cannes, car plus risquée. C'est un exercice que la noblesse pratique toujours, de préférence devant son roi, en une forme de, j'ajoute, d'hommage guerrier. Et d'ailleurs, dans des périodes de conflit avec le monarque, la noblesse, systématiquement, quel que soit le pays, s'abstient de participer à des tournois. S'abstenir de participer à des tournois, c'est une façon de manifester son désaccord avec le roi. Nous verrons qu'à l'époque de Philippe IV, la même chose va se produire avec le taureau, mais c'est l'autre bout de mon histoire. Lors de l'arrivée de Charles à Valladolid, en 1517, il y aura plusieurs tournois. Et peu parmi les grands nobles espagnols y participent. Parmi les participants, nous trouvons néanmoins ceux qui l'ont suivi depuis le départ, les ducs de Alba, de Béjar, Nájera, Arcos, amiral de Castille, marquis de Villafranca, qui est la même chose que la famille d'Alba, et les comtes de Benavente y Lemos. Encore une fois, c'est fondamentalement une noblesse très vieille castillane, voire léonesse et zamorana. Vraiment, c'est vraiment la Castille proche presque de la Galice. Lemos, c'est la Galice. Hein, on est vraiment très au nord. Le roi y intervient dans ce tournoi, une fois, lui-même, mais il n'est pas très adroit, et il lui faut trois courses pour casser la lance, et on passe un petit peu sous silence. On joue des cannes tout de suite après, et là, toute la noblesse espagnole descend jouer les cannes, mais alors, vraiment. Alors là, ils y vont tous, n'est-ce pas? Mais ensuite, on court des taureaux, et rien n'est dit sur la noblesse. On suppose que qu'on court des taureaux à pied, de façon comme on en avait l'habitude. Quand devenu empereur, Charles Quint revient en Espagne, puis en 1526 épouse Isabelle de Portugal à Séville. Les historiens estimons tous, que Charles s'est déjà bien hispanisé par rapport à son arrivée 9 ans plus tôt. Le fait même d'épouser sa cousine portugaise a été compté parmi les traits d'hispanisation, d'aller à Séville, enfin toutes ces choses que nous avons tous vues avec nos étudiants un jour ou l'autre. Au cours des fêtes célébrées à Séville sur la place de San Francisco, il y a un jeu de cannes et une course de taureaux. Le roi, cette fois-ci, pour la première fois dans le document que j'ai vu, peut-être qu'il l'a fait avant, mais tout simplement je n'ai pas les documents, il descend dans une quadrille et il court les cannes avec ses chevaliers, mais il intervient également le lendemain dans un tournoi tout près de l'Arénal ou quelques tournois. On est dans une période de transition, nous sommes en 1526. C'est en 1527 à Valladolid, parce que je dis toujours, et je l'ai répété 1000 fois, c'est Valladolid la ville fondatrice de la tauromachie. J'en suis aujourd'hui profondément convaincue, en quelque sorte. Hein. Et vraiment, le chaînon qui permet vraiment de passer d'une tauromachie à une autre et d'enchaîner. Valladolid est importantissime. Parce que Valladolid, merci beaucoup, a deux étapes importantes. Elle a 1527 et ensuite elle aura 1605. Et ce sont les deux grands tournants de l'histoire de la tauromachie. Restons-en à 1527. En 1527, à l'occasion du baptême de l'héritier, avant qu'on annonce qu'apparemment on a pris tard, mais qu'on devait savoir déjà, c'est-à-dire le sac de Rome, on fait des grandes fêtes. On fête la naissance du futur Philippe II. Les membres des mêmes grandes familles que nous avons vues dès le départ, d'ailleurs les Alba, Villafranca, Nájera, sont les mêmes qui ont suivi l'empereur pour le couronnement, les mêmes qui l'ont suivi déjà dans le premier voyage en Europe, qui sont revenus avec lui, qui sont vraiment dans sa suite. Tous ces mêmes membres de la grande famille affrontent cette fois-ci des taureaux, aussi bien Alba, Nájera, Benavente, Villafranca. Il s'agit d'une véritable noblesse d'épée, une véritable noblesse militaire, plein sens du terme, qui a déjà accompagné l'empereur en Europe pour son couronnement et qui va désormais l'accompagner sur la scène militaire dans les années à venir. Ce sont les rejetons de toutes ces familles qu'on va trouver à Naples, qu'on va trouver à Tunis, qu'on va trouver partout. Le duc de Nájera tue 2 taureaux avant d'être blessé. Alors, il s'est fait blesser. C'est rare que l'homme à cheval se fasse blesser. Le duc de Nájera se fait blesser. Et ça fonctionne comme un déclic. C'est à ce moment-là que l'empereur, selon notre bien-aimé Fray Prudencio de Sandoval, j'avais oublié le nom de Don Prudencio, por Dios. Fray Prudencio de Sandoval, encore un favori d'Alexandre. Fray Prudencio de Sandoval nous raconte ça avec maintes détails, n'est-ce pas? C'est à ce moment que ça fonctionne comme un déclic. Le roi descend et il donne ce fameux coup de lance qui nous a valu une magnifique gravure de Goya 2 siècles plus tard et qui est pour moi l'acte inaugural de la tauromachie, qui donne à la tauromachie officielle un rang officiel de spectacle de cour, un rang officiel de spectacle sorti des sphères populaires, même s'il va rester quand même toujours populaire, c'est-à-dire qui donne à la tauromachie, c'est l'être des noblesses. Hein, la tauromachie, le roi y participe, le roi donne un coup de lance. Hein, si on devait comparer, parce que je ne suis pas sûr le temps d'y arriver, avec l'amphithéâtre de Philippe el Grande, qui ne donne que, il ne fait que tirer avec l'arquebus sur le taureau, beaucoup plus tard, Buen Retiro, un siècle plus tard, nous voyons toute la différence. Lui, il descend, un chevalier, avec son armure, et il donne un coup de lance, et ça nous a valu cette magnifique gravure. Alors, il tue un taureau, et cet acte inaugural, comme je dis, accorde définitivement à la tauromachie à cheval ses lettres de noblesse, lui confère le rang des fêtes courtisanes, et l'exercice tauromachique devient, comme l'était le tournoi, un acte de cohésion de la noblesse avec son roi. Je vois aussi, en tant qu'historienne, une forme de triomphe ou d'affirmation de la noblesse espagnole qui réussit à imposer ses usages sur les usages des flamencos. Ça me paraît une évidence, hein, et dans sa conception propre de l'exercice militaire. Alors, je vous lirai bien volontiers le passage de Castiglione, d'abord de Sandoval, qui est magnifique, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps de... Bien. C'est à partir de là qu'on peut très bien comprendre ce que Baltasar de Castiglione, dans les mêmes années, a écrit sur l'homme espagnol, sur le parfait courtisan espagnol, que j'ai déjà lu dans d'autres occasions. Quand il explique qu'est-ce que c'est qu'un véritable courtisan, hein, il va dire comment ils doivent tous savoir monter à la brida et à la jineta, comment le français doit être le meilleur pour monter à la brida, c'est-à-dire avec les étriers longs et dominer un cheval difficile, etc., etc., et l'italien faire ceci et l'autre faire cela. Mais quand il arrive à l'espagnol, il dit: en jugar las cañas, en ser buen torero, en tirar una vara o echar una lanza, se señale el buen cortesano entre los españoles. C'est-à-dire que dans tous ces traits qu'il va accorder à chaque nationalité, le trait du courtisan espagnol, du bon courtisan espagnol, courtisan parfait, est celui de savoir en plus être torero. C'est la traduction de Boscan que j'ai utilisée. Bien. Donc, ces traits d'identité, j'ai eu le grand plaisir de voir comment ils se confirment à Naples, par exemple, et quand, à votre avis, en 1535, date évidemment significative, quand après Tunis, et de retour de sa première vraie campagne militaire personnelle sur son chemin vers Rome, à son passage à Naples, il est reçu par Pedro de Toledo. Pedro de Toledo, c'est le même marquis de Villafranca qui, depuis la première fois, a participé, le frère du duc d'Albe, qui a participé au premier tournoi, qui a couru des taureaux la deuxième fois à Valladolid, qui a toujours été aux côtés de l'empereur et qui est à Naples, évidemment. C'est le grand vice-roi que nous connaissons, qui organise des fêtes somptueuses. Ce jeune marquis de Villafranca, qui était intervenu dans le tournoi de Valladolid de 1517, puis dans la course des taureaux de 1527, organise, au moment de la venue du roi vainqueur victorieux de Tunis, en 1535, des grandes fêtes, dont des courses de taureaux, qu'il avait l'habitude d'organiser à Naples, et dont le chroniqueur Gregorio Rosso nous dit: ils ont fait un jeu de taureaux dans lequel Sa Majesté a montré une très grande élégance et beaucoup de grâce. Donc on ne sait pas s'il a tué un taureau, mais en tout cas il est descendu dans l'arène. Alors imaginez qu'à la veille de 1536, dont on dit que les discours en espagnol devant le pape est le signe suprême de l'hispanisation de l'empereur, en 1535, à Naples, il taurait. Je crois que, comme ensuite, je suis récemment qu'à 1536, il fait chanter, il oublie sa chapelle flamande et il fait chanter à Motet de Morales devant les Français. Là, on peut dire que l'hispanité de l'empereur, on la trouve dans le discours, dans la pratique festive et dans la musique. Hein? Pardon? 39, bon, par là, dans ces mêmes années-là. Ouais, dans ces mêmes années-là. Bon, voilà. Alors, la tauromachie du temps de l'empereur est une tauromachie très proche de l'entraînement militaire, avec ses longs étriers et ses coups de lance. La tauromachie de la lanzada, du coup de lance, est une tauromachie guerrière. Et je me demanderais, comme c'est une question qui m'avait été posée par Roland Béard autrefois et à laquelle j'ai réfléchi beaucoup, est-ce que pour cet homme de la Renaissance espagnole, chevalier, militaire, noble, à cheval avec ses armes, est-ce que quelque part le taureau ne représente pas dans la sphère espagnole une forme de l'avatar, un avatar, pardon, du dragon que nous trouvons dans d'autres régions pour la même époque. Je ne sais pas, c'est une question que je vous livre, surtout à ceux qui sont davantage portés sur la littérature. Et nous voyons énormément des chevaliers dans la peinture italienne ou dans la peinture anglaise, avec Saint-Georges tuant le dragon, mais toujours un chevalier. Cette époque de la Renaissance est un motif très connu en Espagne. Nous avons la même chose, mais ce n'est pas un dragon qui est terrassé, mais le taureau, qu'on confond aussi métaphoriquement avec le diable, avec le musulman, avec tout ce que vous voulez. Bien, troisième partie que je vais essayer de faire très rapide, Philippe II, c'est peu significatif. La période de Philippe II est peu significative. D'abord, c'est un homme qui est peu militaire. Que sa noblesse militaire lui sert sur les scènes européennes, mais elle n'est pas à ses côtés. Elle est ailleurs. Elle est aux Pays-Bas, elle est en Portugal, elle est rarement à côté de lui. Et les papes en tardisent la tauromachie, c'est toute. Donc ce n'est pas bien qu'il montre, quand il est à Lisbonne, qu'il assiste aux courses de taureaux, puisqu'il écrit à ses filles, qu'il leur raconte dans ses fameuses lettres. On ne peut pas dire que la tauromachie, il ne me semble pas, je n'ai pas de documents qui me permettent de juger s'il y a eu un changement notable. Néanmoins, on voit arriver une nouvelle mode, c'est-à-dire que la monte à cheval, qui est toujours faite de formes de monte, la brida et la ginetta, la bride et la genette, on voit de nouveau un engouement pour la genette. La genette est en train de reprendre, qui est une origine, elle, oui, d'origine d'influence mora, est en train de reprendre le dessus. Il y a au moins 4 ou 5 traités de monte à la genette qui sont publiés dans les années 1570-1580, tu en parles, je crois, dans ton article, d'un ou deux d'entre ceux-là. Et on peut voir dans cette nouvelle façon de monter qui permet de tourner, faire tout, non pas une nouvelle façon de monter, une façon de monter à cheval qui se récupère et qui se remet à la mode, qui permet c'est avec des étriers très courts, donc un peu comme aujourd'hui dans les hippodromes, et ça permet au cheval de tourner sur lui-même très rapidement. C'est très pratique pour les jeux des cannes en particulier. Alors, peut-être que tendance va avoir une influence. En tout état de cause, c'est Philippe III et Lerma qui vont créer le nouveau tournant, qui vont prendre le nouveau tournant permettant une évolution de la tauromachie à cheval et permettant à la tauromachie à cheval d'entrer dans sa période de splendeur. Entre 1598 à Valence et 1605 à Valladolid, un long chemin d'apprentissage sera parcouru. Pour faire très court, parce que je l'ai écrit hier dans un volume sur le duc de Lerma, quand ils arrivent pour accueillir la reine Marguerite à Valence, ils veulent faire des courses de taureaux, mais il n'y a pas un noble sachant monter à cheval et taurer. Il y a un vide générationnel. Il y a toute une génération qui ne l'a pas fait parce que ça a été interdit, parce que Philippe II, à la fin de sa vie, n'entretenait pas une cour. Pour des raisons multiples, ils ne savent pas. Et on voit comment ils apprennent et à quel point, en 1605, à Valladolid, c'est le sommet de la tauromachie à cheval. Toute la noblesse se dispute pour taurer lors de la naissance du futur Philippe IV. C'est encore une noblesse militaire qui la pratique, mais sous une nouvelle forme, avec une monte à la genette et en pratiquant ce qu'on appelle le rejón, cette petite lance courte, et non plus la grosse lance médiévale qui exigeait une armure. D'ailleurs, l'armure est infiniment plus légère. C'est à Lerma, en 1617, c'est le sommet, juste avant la chute de Lerma, c'est le sommet du système. Je crois que les fêtes de Lerma, je l'ai montré hier, c'est un moment où véritablement il y a même un renouveau des générations, où un nombre incalculable de gens taurés à cheval, et c'est un moment particulièrement brillant. Quand on passe sous Philippe IV, peu de temps après, entre 17 et 21, il n'y a pas une grande distance, avec l'arrivée des Olivares, qui sont tous les deux de grands cavaliers également, la mode demeurera, mais on a vu arriver sur la scène, en quelque sorte, les grands militaires quittent la scène de la tauromachie pour laisser la place à ce que j'appellerais une nouvelle noblesse ou des parvenus. Les Villamediana, tous ces hommes, le Bonifacio, qui sont plutôt des militaires du quotidien, qui sont des chefs de police, dans le cas des Bonifacio, dans le cas des Villamediana, c'est autre chose, c'est la famille Taxis, etc. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Ce sont des gens qu'on va voir sur la scène à Madrid, bien davantage que ce qu'on voyait avant. C'est-à-dire qu'il y a une substitution, c'est une substitution qui va de pair probablement avec la désaffection que l'on sent de la part de la haute noblesse pour l'exercice militaire. Hein. Il y aura de moins en moins de nobles sur le terrain de la haute noblesse espagnole sur le terrain des batailles et sur les terrains en Europe. Il restera toujours les Villafranca qui sont, à mon avis, et les ducs de Maqueda qui sont vraiment les plus tardifs, mais il reste peu de monde. Hein. Et d'ailleurs, nous avons un moment très significatif qui est le moment de l'inauguration du Buen Retiro. Benassar avait beaucoup critiqué Elliot et Brown parce qu'il ne parlait pas assez de tauromachie lors des fêtes d'inauguration du Buen Retiro. Mais en fait, je défends Elliot et Brown, c'est pas qu'il n'en parle pas beaucoup, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup parce qu'à la suite de cette affaire autour des Fadrique et de Toledo, le frère du marquis de Villafranca, que je connais bien parce que les archives sont à Medina Sidonia, enfin bref, ce Fadrique de Toledo qui avait été le grand triomphateur de Bahia, celui du tableau de Maino, qui a été complètement victime d'un ostracisme terrible puisqu'il n'a pas voulu retourner à Bahia parce qu'on ne lui avait pas donné les moyens militaires de regagner cette guerre qui entre-temps avait été perdue, de récupérer cette place au Brésil. Fadrique de Toledo a été mis en prison et il est mort, oublié. Le roi et Olivares interdisent même qu'il ait des obsèques dignes de son rang. Et comme l'inauguration du Buen Retiro en décembre 1633 vient dans la suite, c'est au moment où tous ces événements ont lieu, la famille d'Albe et ses proches, à savoir les Villafranca, parce qu'ils sont cousins germains, quittent les lieux pour montrer au roi et à Olivares qu'ils ne sont pas d'accord avec l'affront qu'ils ont subi et qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique d'Olivares. Et en réalité, au Buen Retiro, il faut appeler la toute petite noblesse, ou alors les proches d'Olivares, le duc de Medina Las Torres, les gens de sa famille, pour essayer de faire monter quelqu'un sur un cheval pour se mettre devant un taureau, parce que personne ne veut torer. Ou alors on prend des Portugais qui veulent se faire bien voir et qui vont torer à pied, mais le roi, ça ne l'intéresse pas. Le roi, ce qui l'intéresse, c'est le taureau à cheval. Et toute la famille d'Albe quitte les lieux, part pour manifester le désaccord. Donc une fois de plus, et ici nous le pouvons, c'est presque ma conclusion, nous voyons très bien comment, par rapport à cette cohésion autour de la noblesse militaire autour du roi, la dernière noblesse militaire résiduelle qui reste en Espagne vraiment digne de ces noms qui sont les Maqueda, les Villafranca ou les Albe, au moment du Buen Retiro, quitte les lieux et marque donc leur refus, leur rejet, et casse cette cohésion noblesse militaire royauté que, de la même façon qu'à d'autres moments ils ont pu adhérer ou que, comme on le disait du tournoi, on trouve exactement la même chose avec ces faits, pratiques tauromachiques qui n'auront pas lieu au Buen Retiro. Donc on peut dire qu'à partir de là, pour conclure, le face-à-face singulier entre l'homme et le taureau, le plus souvent l'homme à pied, prendra un autre sens. Petit à petit, l'homme à pied prendra le pas sur le taureau à cheval, même s'il reste toujours des taureaux à cheval. Et même si la relation entre exploit militaire et exploit tauromachique garde une connexion dans les mentalités collectives, dans la mesure où même au XVIIIe siècle, quand nous voyons des portraits comme les portraits des toreros faits par Goya, et jusqu'au costume des Lumières d'aujourd'hui, nous remarquons les grandes épaulettes, hein, dont tous les spécialistes du costume vous diront que c'est une trace ou un vestige, ou un reste, ou un rappel des origines castrense, militaires, de la tauromachie. Nous ne gardons plus que cette espèce de trait, comme on le voit encore dans les costumes d'aujourd'hui, avec des épaulettes très exagérées, qui rappellent les costumes militaires. Voilà, j'ai essayé de faire vite, en fait. Bon, ben, je vous remercie beaucoup de votre attention.